Bonjour à tous, merci d'être venus en ce dimanche début d'après-midi. On va parler d'un sujet à la mode, hein, c'est les fake news, on parlera aussi des légendes urbaines. Les fake news ont quasiment toujours existé, mais avec les réseaux sociaux et internet ont évidemment complètement explosé. On en a beaucoup parlé l'année dernière, notamment au moment de l'élection américaine aux États-Unis. Les fake news, c'est globalement une information qui n'a pas de source, hein, c'est une fausse information que l'on diffuse et qui a toutes les caractéristiques d'une véritable information. Voilà, simplement pour cela pose évidemment beaucoup de questions. On va évidemment se poser des questions sur les réseaux sociaux qui ont été accusés de diffuser massivement les fake news parce qu'ils n'étaient pas capables de différencier ce qui était une véritable information d'une fausse information fabriquée. On se posera la question aussi de l'information et des algorithmes. Comment est-ce que l'un peut influencer l'autre? Et on parlera aussi des légendes urbaines, qui ne sont pas tout à fait des fake news, mais quand même des mythes, en tout cas de rumeurs ou complètement fabriquées et qui perdurent. La question étant de savoir aussi pourquoi ça nous fascine autant. Autour de cette table, quatre intervenants. Je vais commencer avec Alex Gester. Pardon. On parlera notamment d'Élysée Noire. 666, parce qu'il y a une journaliste, il y a des complotistes et il y a une fin du... il y a une date de fin du monde, donc une fausse info. Et on parlera évidemment des comptes du Soleil Noir, puisqu'il est question d'informations. À ses côtés, Baptiste Beaulieu, qui est médecin, qui a écrit notamment « Les mille et une vies des urgences ». Et je voudrais qu'on parle du roman « Alors vous ne serez plus jamais triste ». Et on parlera peut-être des prédictions autoréalisatrices. Voilà, une sorte de fake news à rebours. Delia Sherman, qui nous a accompagné toutes ces utopiales, avec notamment Le labyrinthe de la liberté. On parlera peut-être aussi de The Porcelain Dove, voilà, et qui évidemment réagira de son côté. Et puis Olivier Hertscheid, je l'ai bien dit ? Je l'ai bien dit, Olivier Hertscheid, qui est maître de conférence en sciences de l'information, qui travaille notamment sur l'écologie cognitive et informationnelle. Vous nous direz ce que c'est et vous nous parlerez de la place des algorithmes dans notre monde, notamment au niveau des réseaux sociaux et de l'accès de l'information. On va parler information aujourd'hui et tout ce que ça change. Peut-être, Alex Gester, on va commencer sur l'information. 1, 2, il marche.
1, 2, 1, 2,
il marche celui-ci. Okay. Je voulais revenir en premier lieu sur les contes du Soleil Noir, puisque dans Crash, on a une jeune mère de famille qui se dilue un petit peu dans les infos télé.
Voire complètement.
Ouais. Voilà, qui prend le flux. Et puis dans Arbre, on a une journaliste qui utilise le Soleil Noir pour ses articles.
Pour aller voler la vérité, en fait.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'un et l'autre ? D'abord, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur le flux d'information ? Et qu'est-ce que le Soleil Noir ? Et
son rapport, le flux d'information, c'est mon sujet de fond, en fait, parce que mon premier roman, Tourville, est déjà complètement là-dedans. Toujours autour de la même thématique qui est celle de la fin du monde, qui était abordée, d'ailleurs, dans une table ronde là, c'est-à-dire les temps apocalyptiques qui sont toujours aussi pertinents aujourd'hui à travers le flux de l'info, qui nous parle de possible apocalypse nucléaire, de certitude d'apocalypse écologique, etc., etc., et qui sont une part intégrante de l'actu réel. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de parler de fake news ou quoi que ce soit, je parle simplement des brèves de France Info, quoi. Donc, dans les contes du Soleil Noir, le premier, effectivement, c'est quelqu'un qui est une victime totale du flux des médias, pour la simple raison que c'est une personne handicapée. Une personne qui a eu un accident, qui est immobilisée, alitée, et qui donc n'a pas grand-chose d'autre à faire que d'être devant un écran. Donc du coup, effectivement, sa vie se résume à être projetée à l'intérieur de ce flux d'informations permanent. Ça devient son existence.
Quelle était l'intention pour toi ? Évidemment, il y a de la dénonciation, évidemment, il y a une remise en cause. Quel est le déclic un petit peu ?
Ce qui me motive pour écrire aussi, c'est aussi des flux et des questions émotionnelles. Je pense qu'on est quelques-uns ici à avoir des grands-parents ou avoir eu... Moi, j'ai perdu tous mes grands-parents, mais j'ai eu l'occasion de les visiter en maison de retraite. Une des scènes qui m'a le plus frappé dans ma vie, d'ailleurs au point que j'ai sorti une petite caméra vidéo et que j'ai filmé ça un certain temps, c'était des personnes âgées de 80 ans ou plus dans une salle de visite d'un hospice qui était immobile dans des fauteuils roulants. Et il y avait une télévision sur laquelle passaient des images de voitures qui roulaient très, très vite. Et j'ai filmé ça pendant une dizaine de minutes. Et donc, on a des personnes totalement immobiles qui regarde un écran sur lequel tout va très très vite. C'est un peu la base qui m'a amené à écrire ce bouquin.
Ouais, il y a une différenciation entre la personne qui regarde
complètement.
Et ce qui est projeté. Bah,
c'est une question de différence de rythme. Deleuze parlait, un philosophe que j'aime beaucoup, parlait de ça, justement, des différenciations de rythme. Et là, il y a le rythme biologique de la personne qui regarde l'écran, il y a le rythme du flux de l'info. Et il y a un moment où c'est plus en corrélation, en fait.
D'accord. Olivier Hershaid, c'est d'abord peut-être une réaction, et puis qu'on parle un peu des algorithmes. Alors, une réaction sur ce que vient de dire Alex sur le flux d'informations permanent.
Bah effectivement, on est aujourd'hui avec des environnements socio-techniques, des plateformes comme Facebook, Twitter ou d'autres, dont le métier est effectivement non pas d'organiser l'information, mais de générer, de fabriquer de l'attention et de décider ce sur quoi cette attention va se fixer. Et dans ces environnements, dans ces plateformes, on parlait de Deleuze, mais il y a un autre philosophe qui s'appelle Foucault et qui avait beaucoup réfléchi sur ce qu'il appelle les régimes de vérité. Qu'est-ce qui, dans une société, à un moment donné, fait qu'on va considérer qu'une information est vraie. Il avait montré que tout ça était dépendant d'un certain nombre de médias, de plateformes, d'opinions. Et à l'heure actuelle, à l'échelle du numérique, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que chacune des plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser a des régimes de vérité différents. C'est-à-dire ce qui est vrai pour Google n'est pas forcément vrai pour Facebook, n'est pas forcément vrai pour Wikipédia. Je donne juste trois exemples rapidement. Wikipédia, l'encyclopédie collaborative, son régime de vérité, c'est ce qui est vérifiable. En fait, Wikipédia se moque du vrai, elle essaie de voir ce qui est vérifiable par d'autres sources. Google, son régime de vérité, c'est la popularité. Ce qui est populaire, c'est ce que l'algorithme de Google va présenter d'abord et donc va montrer comme vrai. Et dans Facebook, c'est le paradis des fake news parce que le régime de vérité de Facebook, c'est ce qu'il appelle l'engagement, c'est-à-dire ces contenus sur lesquels on va produire du like, du commentaire, il va y avoir du débat, il va y avoir des prises de bec. Et qu'est-ce qui est plus sujet à l'engagement, à la prise de bec qu'une fake news? Rien. Donc, ce que Facebook a mécaniquement, organiquement et algorithmiquement met en avant, ce sont des nouvelles qui effectivement sont le plus souvent, pas tout le temps, mais en tout cas qui favorisent ces formes de fausses informations.
Est-ce qu'il y a une prise de conscience et une volonté d'essayer de trier ou au moins un questionnement sur ces régimes de vérité?
Mais ils sont un peu obligés parce qu'il y a eu des expériences malheureuses. On a beaucoup parlé des fake news pour l'élection effectivement de Trump. C'est très compliqué hein, parce que le vote, c'est quand même par essence une décision qui obéit à plein de paramètres externes. Donc c'est difficile de dire c'est parce qu'il y a eu des fake news russes que les gens ont voté pour Trump. Mais enfin, en tout cas, on sait que ça influence, que ça joue. Et donc, les propriétaires de ces plateformes sont obligés de commencer à avoir un discours politique. Puis en plus, ils sont coincés parce que soit ils disent ça n'influence pas le vote, ça n'a aucune incidence. Et à ce moment-là, tous les annonceurs, tout leur modèle économique s'effondre. Parce que si le fait d'afficher une information n'a pas d'influence sur les gens, c'est tout le modèle économique de Facebook qui ne sert plus à rien. Donc il y a un discours un petit peu schizophrénique qui fait qu'ils sont coincés, ils sont obligés de se positionner, ils mettent en place des choses. Mais enfin, grosso modo, au final, ce qui compte, c'est d'abord le business, le modèle économique. Et tant que les fake news continueront de ramener beaucoup d'argent et beaucoup d'engagement, on peut être plus que défiant à l'égard du discours de Facebook sur sa volonté de limiter ce genre de choses.
Il y a une partie des fake news fabriqués pour faire de l'argent par des gens. Et sur l'élection américaine, c'était notamment des gens en Macédoine, donc quand même assez éloigné. Delia, vous qui vivez à New York, évidemment, je vais utiliser votre lieu de vie. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là avec ces fake news?
Well, it was very difficult being on Facebook right before the election because we really did think, we being the people who did not vote for Trump, that nobody in their right mind could believe the poison they were being fed. And after we all discovered, sadly, that a lot of people had an endless appetite for poison, it occurred to me that One of the because I write historical fiction, and frequently I'm writing books that are around a war, that are set before a war happens. And one of the things that usually happens is that newspapers start printing a lot of very incendiary propaganda, basically. And that propaganda is designed in order to work on people's fears and to reinforce their prejudices against anybody who is not them. And since there were a lot of people who were frightened because of the way the world has been a violent place, and the bombings that have taken place here and in Brussels, and there was a great deal of information that was in fact verifiably true that they could say false things about. And so you had this feeling that you didn't know what was true and what wasn't, because there were so many rumors running around. There were so many things that were making people afraid. And when people are afraid, they make bad decisions. So that is one of the things that I think makes people not look too closely at whether news is possibly real or exaggerated or whatever. It's because they already are there's something in them that wants to believe that. And so they do. And they don't look too closely at the numbers, which may be falsified. They just say, oh, there's a graph, so it's got to be true. And I think that that is something that very much happened. And it's very sobering, because, of course, anybody can use that. You can use it on the side that you happen to agree with as much as you can use it on the side that you don't agree with. And it's gotten to the point where I look at the newspaper and I go, oh, that's a nice novel. It doesn't mean anything anymore. It means less now to me.
Baptiste Beaulieu, une réaction?
J'en profite pour rebondir sur Facebook et les réseaux sociaux. Je vais reparler de quelque chose que j'ai parlé hier, mais parce que ça me paraissait super important. Il faut toujours, ça prend deux minutes, quand on voit une vidéo sur Internet, juste vérifier la source. Parce que nous sommes des héritiers, nous sommes des enfants de l'image. C'est-à-dire que nous venons d'une génération pour laquelle l'image vaut légitimité. C'est-à-dire que si on apparaissait à la télé, c'est que notre message était vérité. Seulement aujourd'hui, n'importe qui peut créer sa propre petite télévision chez lui et déverser des flots d'images et dire n'importe quoi, et ça passe sur les réseaux avec cette légitimité-là de l'image. Je donne un exemple, une vidéo qui a été partagée des millions de fois à l'époque, enfin il y a quelques mois sur les vaccinations, où on voyait un homme assez âgé qui avait les cheveux blancs, très ridés, qui était médecin, et qui pendant 10 minutes démonte les vaccins avec un langage très scientifique, en parlant d'immunologie avec des termes très pointus qui sont très très impressionnants. Et effectivement, on voit cette vidéo de 10 minutes, et au bout de 10 minutes, on se dit effectivement les vaccins sont une arme de destruction massive. On tape son nom et son prénom sur Google, donc il s'appelle, c'est le docteur Christian-Thal Scheller, je dis son nom parce qu'il mériterait d'aller en prison. Et donc ce type qui est un médecin suisse, on apprend sur Google qu'il soigne ses patients et ses patientes avec l'urine, qu'il est surveillé depuis 2006 par la Miviludes, qui est le comité de surveillance contre les sectes, que c'est un ex, il a appartenu à la secte du Temple solaire, vous savez, ceux qui se sont tous suicidés en masse à une époque, et surtout qu'il a créé une maison d'édition dans laquelle il vend des livres contre les vaccins, etc., et sur lequel il fait son beurre. Le seul truc qui m'énerve, je m'énerve contre lui et je m'énerve contre Facebook, parce que ces vidéos sont partagées plusieurs milliers de fois. Elles sont partagées dans nos réseaux, elles sont partagées, notamment, je suis tombé sur plusieurs réseaux africains où elles étaient partagées des centaines de milliers de fois, sur Média Africa, etc., etc. C'est-à-dire qu'en France, si un de vos enfants fait une encéphalite rougeoleuse parce qu'il n'est pas vacciné, il va avoir la meilleure médecine du monde qui va s'occuper de lui. En Afrique, l'enfant va mourir. Et donc ce médecin qui est dans son petit coin de Suisse, qui fait ses vidéos de 10 minutes, il a du sang sur les mains. Et Facebook, qui permet la propagation à travers ces réseaux-là, de ces vidéos-là qui sont mensongères, a aussi du sang sur les mains. Donc il faut juste checker les sources. En deux secondes, on apprend que ce type soigne ses patients avec l'urine et qu'il est surveillé par le comité de lutte contre les sectes. Ça devrait interroger les gens quand même, quoi.
En fait, dans ce que vous dites, il y a deux notions que je retiens. Il y a ce que disait Delia sur la fascination pour les fake news. Même si on ne sait pas d'ailleurs que ce sont des fake news. Et puis il y a les intentions. Sur la fascination, pourquoi est-ce qu'on est fasciné par ces news et que finalement on va cliquer, même si on a l'intuition, parfois, alors sur les vaccins c'est pas vrai, mais sur des news sur Donald Trump, on a l'intuition quand même, c'est un petit peu gros.
Je pense qu'il y a une raison simple pour cette fascination, c'est qu'on est en recherche de sens par rapport à certaines questions, et le matériau qui est déjà accessible n'a pas forcément suffisamment de sens, en fait. Donald Trump a quand même gagné les élections en disant que la presse mentait. C'est un président des États-Unis qui dit ça. Et il y a une bonne partie de la population américaine qui refuse de croire les médias officiels. Et en France, il y a pas mal de monde qui refuse de croire les médias officiels. Et ce, parfois pour de très bonnes raisons. Donc on est dans une période un peu compliquée où il faut choisir. Tout à l'heure, tu as fait mention de quelque chose. Je mets juste entre parenthèses. Mais on est sur un débat sur les fake news. Tu as utilisé le terme « arme de destruction massive ». Pour moi, la fake news la plus grave de ces 10 dernières années, de ces 20 dernières années, ce sont les armes de destruction massive annoncées par M. Tony Blair, qui n'est jamais allé en prison pour ça. Le nombre de morts qui découlent de cette fake news est immense, immense. Voilà. Donc après que des gens se posent des questions et qu'ils se mettent à avoir des doutes et qu'ils aient besoin de chercher un autre sens ou une autre vérité, parce que là, on leur a dit que c'était l'info officielle, il y a eu une cassure. Il faut prendre conscience qu'il y a une cassure. Ça explique pourquoi Donald Trump est élu.
This panelist also says that we're going to talk about urban legends. And when you look at urban legends, they're many of them, they're horror stories. They are basically our fears. In the case of the example that was given in the program book was that, you know, there are alligators in the sewers in New York. It's literally things that are really dangerous with extremely large teeth coming out from the toilet and eating you. Or you go down into the sewers where things are very mysterious and dark and it smells bad and there are alligators down there. It's a child's nightmare. And a lot of the urban legends that I grew up with, which is, you know, the hitchhiker in the back seat and, you know, you open the door and somebody kills you, they're horror stories. And I think that we are programmed, because we are monkeys, to be afraid of those things that might eat you. And as we become more civilized, one way or another, that the things that we are afraid of are still things that are going to kill us, but they are more complicated and sophisticated things. We aren't so afraid of alligators, but we're afraid of metaphorical alligators. We're afraid of people who might be carrying a gun. We are afraid of all of these things that threaten us terribly and that would change the world that we love to live in because we're alive in it and will make things bad. And so that's why we're programmed to believe that sort of thing. And I think you need to fight against that fear. And we have to be taught that you have to look and see, is it likely that an alligator is going to survive in the sewer? No, it's not. Is it likely that suddenly any hitchhiker that you pick up is going to murder you? Well, maybe 1 out of 1,000 times, but it's not likely. And I think that is something that is something that we always have to think about, that you measure whether it's likely, whether it's got facts behind it, whether what's going, you have to look at the news and not just consume it. And I think that especially with Fox News, if you watch anything go by, it's about you have to be frightened, you have to be frightened, you have to be frightened over and over and over again. And I think that sometimes Facebook does the same thing.
Isn't that the official news, though? Fox News? Isn't that supposed to be the regular news?
Well, yes,
isn't that
but
presented
not,
as normal regular
yes,
news?
Yes, but all of the news is presented as the regular news. Not everybody watches Fox News. And I have seen the media drifting to the right and getting more and more like that because they want more eyeballs on it. But that's what you have to watch out for, and there's less and less, but it's not official. Nobody says this is the official news. Everybody makes that decision for himself. And, you know, people make bad decisions.
Oui, juste pour compléter, il y a toujours eu des fake news à l'échelle de l'histoire des médias, mais il y a un lien particulier entre les plateformes sociales comme Facebook et les fake news. Ce lien particulier, c'est que ces plateformes, ces infrastructures informatiques, on les a souvent décrites comme des formes de panoptique, c'est-à-dire où il y avait un point de surveillance central et puis où chacun pouvait surveiller tout le monde. Mais ce qui fait leur force, c'est que ce sont d'abord des architectures de la persuasion, c'est-à-dire que ces plateformes, elles jouent sur un certain nombre de biais sociaux, cognitifs, comportementaux qui ont très bien été décrits et étudiés depuis très longtemps et qui vont faciliter notre capacité de croire à ces fausses nouvelles. Et c'est pour ça qu'il est si compliqué, c'est évidemment vital de checker les sources ou de vérifier les sources, mais c'est pour ça que c'est si compliqué de déconstruire ces fake news. Parce que dans Facebook, comme en dehors de Facebook, il y a un certain nombre de biais. Alors, il y a par exemple un biais qui s'appelle l'effet retour de flamme. L'effet retour de flamme, c'est assez simple, c'est le fait que des individus qui vont être confrontés à des preuves, à l'évidence de preuves, en contradiction avec leur propre croyance, et bien l'effet produit, c'est que ça va les inciter à diaboliser ce discours qui leur présente des preuves et à se refermer encore davantage sur leur propre croyance. Ça, c'est des biais qui sont inscrits en nous. Il y a aussi tout un tas d'autres biais, biais de conformité sociale, etc. Mais qui, à l'échelle de ces plateformes, sont... le curseur est poussé très très haut et c'est d'autant plus compliqué de démonter ces fake news. Quand on regarde les vidéos, par exemple, dont tu parlais, là, du fou furieux qui explique que la vaccination sert à rien, ce qui est très paradoxal, c'est que très souvent sur les fake news, pour pas dire systématiquement, dans les commentaires, alors il y en a évidemment des milliers, mais il y a beaucoup de ces commentaires qui démontent la fake news, qui explique pourquoi c'est n'importe quoi, qui donne des sources, etc. Mais ce qu'on ne voit dans l'architecture de Facebook, ce n'est que la fausse nouvelle et ce ne sont jamais les explications qui démontrent en quoi c'est une fausse nouvelle.
Alex ?
C'est très juste. Après, je pense que pour cette histoire de sens, pourquoi est-ce qu'on aime les fake news ou les théories du complot, c'est on nous a fait croire pendant des milliers d'années qu'on était les enfants d'Adam et Ève, notre Terre était au centre de l'univers et qu'on était absolument maître de notre conscience. Et en très peu de temps, en 2-3 siècles, on nous a appris que, on descendait du chimpanzé. Ensuite, que notre Terre était juste une minuscule petit bout de boue au milieu de l'univers avec plein d'autres milieux, d'autres petits bouts de boue, justement. Et ensuite, avec Freud, on nous a appris que beaucoup de ce qu'on pense, en fait, on ne le pense pas et ça se travaille en nous de manière inconsciente. Dans ces conditions-là, avec la science qui arrive par-dessus et qui dit Dieu est mort, moi, je suis le premier à vouloir réenchanter mon monde en m'imaginant que les reptiliens dominent le monde, que la Terre est creuse et que... J'ai envie de ça. J'ai envie de croire à ça parce que j'ai envie de croire que il existe encore quelque chose de magique dans ce monde-là, quoi. Et on m'en a privé. Et on nous en prive tous les jours. Après, devenir adulte, c'est aussi apprendre à se dire... Peut-être que le monde est beaucoup moins enchanteur que ce que je pensais ou que ce que je voudrais qu'il soit, quoi.
Alex, tu voulais intervenir ?
Ouais, c'est pas pour orienter les bas, mais je pense que cette question de sens, pour moi, on est dans une période cruciale au niveau du rapport avec l'information, avec les faits et surtout, avant tout, avec la notion de vérité. Je pense qu'aujourd'hui, on est en pleine rupture et en plein désarroi vis-à-vis de savoir ce que c'est que la vérité, comment on peut avoir accès à la vérité. Et surtout, il y a la privatisation de la vérité. Pendant 2000 ans, on a marché avec une vérité, une doxa qui était très très bien organisée. Aujourd'hui, cette vérité s'est fragmentée au point qu'on peut en arriver par Facebook et les réseaux sociaux avec chacun sa vérité individuelle. Où est-ce qu'on peut arriver à faire corps social lorsqu'on en est à des milliers d'individus, donc des milliers de vérités séparées les unes des autres, quoi ? Et je pense qu'il y a un grand désarroi qui est psychologique et social et on est encore loin d'avoir trouvé des solutions ou d'avoir posé toutes les questions vis-à-vis de cette problématique qui est grave, je pense très grave.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement dans la... Comment dire, une des grandes caractéristiques de tout l'écosystème numérique, au-delà même des réseaux sociaux, c'est cette idée des moteurs de recherche, c'est cette idée de la personnalisation. Et on va personnaliser toujours davantage parce que ce qui vous intéresse, c'est de savoir quelle est la pharmacie ouverte à côté de chez vous et pas à l'autre bout de la France, le film qui passe dans votre cinéma et pas ailleurs, etc. Et à force de personnaliser, effectivement, tu as raison, on déconstruit, on fait tomber tout ce qui servait de référence commune. Alors il y a d'autres référents communs qui se construisent, mais on ne peut pas faire société si on n'a pas à un moment donné des référents communs partagés. Et ce qui est très troublant, c'est de regarder, et ça a bougé en 7-8 ans, il y a 7-8 ans, si on se mettait tous devant un ordinateur, au même moment, au même endroit, qu'on tapait tous le même mot-clé dans le même moteur de recherche, Google, on avait tous à très peu de choses près, la même page de résultats qui s'affichait. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience, plus personne n'aura de résultats en commun, à part peut-être la page Wikipédia qui est le vieux classique. Et quand on n'a plus aucun résultat commun, ça veut dire qu'on n'a plus aucun référent commun, et du coup, c'est très facile individuellement, hein, on a tous fait des manifs, on a tous aussi essayé de convaincre des gens, c'est beaucoup plus facile d'aller voir les gens un par un, d'essayer de les convaincre, que de s'adresser à une foule qui, a priori, vous êtes hostile. Donc, c'est tous ces biais qui se mettent en place et qui font qu'effectivement, ça devient compliqué. Ouais. Mais en plus, juste, pardon, c'est ça que je voulais rajouter, si on adore ces fake news, si on a tendance en tout cas à les partager, c'est parce qu'aussi ça joue sur une dimension qui est la dimension de l'émotionnel. Et là aussi, là où ces plateformes sont remarquables, de cynisme parfois, c'est leur capacité à instrumentaliser nos émotions. Ces plateformes-là, elles savent, elles l'ont mesuré, elles l'ont pondéré, elles savent qu'il y a des émotions qui se partagent mieux que d'autres. Elles savent que la colère, par exemple, tous les contenus qui suscitent de la colère et de l'indignation, ce sont les contenus qui ont la plus forte viralité sur Facebook. Et c'est pas un hasard si l'essentiel des fake news, pas toutes, mais l'essentiel des fake news qui circulent, joue de ce ressort de la colère ou de l'indignation. C'est scandaleux, on va nous obliger à vacciner 11 fois nos enfants, etc., etc. Il y a toujours derrière la même mécanique de l'émotion. Et là, effectivement, la responsabilité de ces plateformes, puisqu'ils savent comment ça marche, elle est engagée.
Il y a aussi un deuxième ressort qui, à mon avis, est hyper important, c'est le narcissisme de l'individu. C'est-à-dire que moi, quand j'avais publié ma vidéo sur les vaccins, j'avais des milliers de commentaires qui me traitaient de tueur d'enfants, etc. Mais j'avais beaucoup, beaucoup plus de commentaires qui me traitaient de mouton. Et j'ai compris que le plaisir qu'avaient ces personnes-là à traiter moi et tous ceux qui soutenaient ma vidéo de mouton. On se dit, moi, je détiens la vérité. Moi, je sais. Moi, j'ai lu des choses qu'on cache à tout le monde, mais moi, je sais, je suis exceptionnel. Et je pense que les fake news et la théorie du complot, elles reposent beaucoup sur ça, sur le narcissisme de l'individu qui se dit « Tous les autres sont des moutons qui croient la vérité établie. Moi, je sais la vérité. »
Alex ?
Ouais. Crash, le sujet est effectivement la fragmentation de l'info et du rapport à la vérité, l'explosion à travers le flux des médias, et part d'un crash. Donc, en l'occurrence, dans le roman, c'est celui du personnage principal qui vit un crash et qui va pénétrer dans l'explosion des médias, mais c'est daté. Pour moi, il y a une date qui pose le moment de rupture des médias, une date qu'on connaît tous, qui est le 11 septembre 2001. Et je pense que c'est un moment où quelque chose a été cassé. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une moitié de la population qui a grandi devant Internet et qui pense que le 11 septembre est une conspiration. Il y a une autre moitié de la population qui lit la presse régulière et qui pense que le 11 septembre, c'est ce qu'on nous a expliqué. C'est un immense pays. Il y a deux parties de la population qui ont un rapport totalement différent au même événement. Donc on a une séparation. Et quand je parle après d'individualisation, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de versions différentes et possibles. Ce qui veut dire qu'il y a un processus de séparation qui va bien avec la société occidentale, d'individualisation jusqu'à la vérité. Individualisation de la vérité. Voilà, moi la question à nouveau que je pose, c'est comment on peut faire corps social dans ces conditions.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de rapidité ? C'est-à-dire qu'on a une thématique aussi sur les légendes urbaines, avec le crocodile qui vit dans les égouts et qu'on se repasse dans les familles comme information, et des fake news qui finalement, sur tout un tas de sujets, arrivent très souvent, très nombreuses, totalement en permanence, et que parfois on oublie d'une seconde à l'autre.
Well, when you see those flash mobs that somebody starts twittering and then you get all of these people in one place, that's what it is like. Online, that somebody will say, somebody said a bad thing, somebody called me a bad word, there's something going on, and then you get this huge reaction, both for and against. As soon as you have people who are supporting, for example, the thing that happened with Me Too, which was very important to a lot of women who really wanted to take this moment where somebody famous had something bad said about them, and to say, yes, this is true, this happened to me, this is something that is part of the system that we are living in. And as soon as you had enough of the women who were doing that, you had all of the flashback. You had all of the men saying, not all men, this is not true, you're all lying, you're trying to make yourselves more important. And it's very difficult. You can always find somebody to agree with. You will either agree with the men who are saying that absolutely nothing happened and these women are crazy and are jealous bitches. Or you have other women saying, yes, this happened to me too. Yes, this happened to me too. So how, you're right. We have no way of measuring. People are constantly saying, shut everybody up. You can't say anything that I don't agree with personally. You can't do that either. But once you've got something as powerful as Facebook, we need to learn how, I hate to say moderate it, because you can't. People are not moderate.
Alex.
Ouais, bon, c'est pour revenir à cette question des lignes de séparation. C'est vraiment moi ce qui me questionne et m'inquiète. MeToo, balance ton porc, etc. C'est une ligne de séparation de plus que je vois se poser dans la chronologie de ce type d'événement où on en est à, d'un seul coup, mettre une ligne de séparation entre les hommes et les femmes. Avant, c'était une ligne de séparation entre les barbares et les civilisés, entre les terroristes et les ceci, cela. Enfin, chaque fois, cette actualité nous amène à tirer une ligne et à créer deux camps. Est-ce que vous êtes fasciste ou est-ce que vous êtes antifa ? Moi, je suis ni fasciste ni antifa. Je fréquente pas de fascistes, je fréquente pas d'antifa. Mais par l'actualité, demain, vous allez devoir vous demander si vous êtes dans le camp des fascistes ou des antifa. Moi, tout ce que je vois, c'est une ligne qui se trace et qui dit vous êtes tous différents les uns des autres. Vous avez des raisons de vous en vouloir les uns les autres. Vous ne ferez pas corps social ensemble.
Là-dessus, il y a effectivement une question qui est vitale, qui est la question de la polarisation de l'opinion. Et c'est tellement vital que Zuckerberg, le patron de Facebook, s'est exprimé là-dessus il n'y a pas très longtemps. Il a publié une longue lettre qui sert un petit peu, qui ressemble un peu presque à un programme politique, et dans laquelle il explique qu'ils ont fait des erreurs, ce qu'ils veulent, quel est le projet de société, etc. Et dans cette lettre, il dit on a merdé parce qu'effectivement, à un moment donné, vous avez raison de nous l'avoir dit, notre algorithme, la manière dont on a construit les interactions dans la plateforme, ont conduit à exacerber les tensions et à polariser l'opinion. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui étaient de gauche, qui finissaient tous avec des contenus d'extrême gauche, et ceux qui étaient de droite avaient tous des contenus d'extrême droite. Et du coup, il a fait, entre guillemets, son mea culpa, parce qu'après, il faudra juger sur pièce et ce sera difficile, mais en tout cas, il a entériné l'idée que effectivement, cet algorithme-là, cette architecture-là, produisait effectivement des opposés et favorisait justement les opinions tellement radicales qu'il n'y a plus d'espace commun de discours. Et quand on rajoute là-dessus un autre paramètre essentiel, puisqu'en plus on est dans un colloque sur une thématique sur le temps, qui est le rapport au temps de ces plateformes et des fake news, ben là aussi on est coincé parce que il y a deux phénomènes. D'abord, il y a beaucoup d'informations qui arrivent en permanence, donc des sujets d'indignation quotidien. On est obligé de faire le tri dans ces indignations. Est-ce que ce matin, je m'indigne pour Balance ton porc ? Est-ce que je m'indigne pour la guerre, les Rohingyas ? Enfin, voilà. Et en même temps, une fois qu'on a travaillé, si on a pris le temps de travailler cette indignation, de s'être mobilisé, d'avoir agi, d'avoir fait quelque chose, on va toujours avoir des effets de rappel. Il y a un côté total recall, c'est-à-dire que périodiquement, l'algorithme de Facebook va nous ressortir des vieilles indignations où il sait que ça avait été mobilisateur pour nous, on avait liké, on avait commenté, on avait interagi, et du coup il y a cet effet de décrochage où on est dans une espèce de ni présent, on n'est jamais dans l'action en fait, et dans la mobilisation et dans la mobilisation sociale au sens premier, on est toujours dans le réflexe de soit il y a trop de choses, je me suis déjà mobilisé pour ça, et l'algorithme nous rappelle en permanence tout ça, et donc c'est compliqué effectivement.
Alex ?
Enfin, j'aime bien cette phrase, on n'est jamais dans l'action. En fait, de manière allégorique et toute simple, le personnage de Crash est quelqu'un qui vit tout ce délire des médias, mais qui ne quittera jamais son lit. Et je voyais ça comme l'allégorie de l'être humain occidental de base.
Baptiste Boulieu.
Il y a aussi quelque chose qui me paraît important. C'est, je prends un exemple. Je repars sur le vaccin, mais parce que c'est mon métier aussi. Dans les années 90, quand on a accusé le vaccin de causer l'autisme, c'était lié à une publication qui était formidable, qui était irréfutable, d'un médecin anglais qui s'appelait Wakefield, qui avait fait une étude vraiment très très importante sur le sujet, et il montrait de manière irréfutable que oui, le vaccin causait l'autisme. L'étude a été propagée dans tout le monde occidental, mais pendant des semaines et des semaines, les médias l'ont reprise, tout ça. Et plusieurs mois plus tard, on s'est aperçu que Wakefield avait travaillé main dans la main avec des cabinets d'avocats londoniens qui lui avaient promis de lui rétribuer une part des procès que les parents de victimes allaient intenter contre les laboratoires pharmaceutiques et qu'il avait donc totalement falsifié l'étude. Mais il y a eu plusieurs démentis, mais qui n'ont jamais fait le tour du monde comme la première étude. Ce qui fait que les gens sont restés sur cette première idée-là, que les vaccins causent l'autisme. Et après, vous pouvez faire tous les démentis que vous voulez, ça ne sert plus à rien, c'est trop tard. La croyance, elle s'est mise dans la tête des gens, et pour l'extirper, même si vous tentez de l'extirper, ils croiront que ça fait partie du complot. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un qui croit en quelque chose de faux, tu te trompes, il va dire, ah mais toi, tu travailles pour ceux qui veulent mentir aux gens, et donc c'est fini, quoi. C'est sans fin, et on ne peut plus s'en sortir, quoi.
C'est pour ça qu'on peut pas, effectivement rationaliser un discours sur la rumeur ou sur des gens qui adhèrent à une thèse, même si on sait, même si on a les preuves factuelles, objectives, que c'est une thèse fantaisiste ou dangereuse, parce qu'on a basculé effectivement du côté de l'irrationalité totale. Et qu'ensuite, tous les biais, dont quelques-uns de ceux que je citais tout à l'heure, vont se mettre en place. Et que pour sa propre santé mentale, quand ça fait 20 ans qu'on croit que tel vaccin cause l'autisme, c'est se mettre en danger réellement que de se confronter à des points de vue qui vont nous démontrer le contraire. Parce que ce n'est pas une croyance qui est isolée, c'est une croyance qui fait partie aussi d'une manière de penser plus globale.
Je voulais rebondir, avant de te laisser la parole, Delia, sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as écrit autour des guerres et des choses qui se disaient at periods of war. You've been writing about that. L'idée, c'est que le mot est revenu beaucoup là d'irrationnel. Et là, on est réellement, je sais qu'on est dans une convention de science-fiction où la science joue une place importante, mais là, on est complètement ailleurs. Ce qui passe en ce moment avec les médias, avec les fake news, et on est en plein irrationnel. Moi, il y a une chose que je sais sur les guerres. Elles sont souvent précédées d'une grande période d'irrationalité. Elles sont extrêmement inquiétantes, ces périodes où on sort de la raison et on rentre dans l'irrationnel.
I was about to say something and it completely fled my brain.
Ce qui me, alors, on a beaucoup parlé des fake news. Ce qui me semble un effet rebours, c'est du coup une distanciation par rapport à l'information même réelle, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que désormais nous avons une information même d'un média tout à fait honorable, hein, comme Le Monde, par exemple.
Comment on définit un média honorable ?
Ouais, c'est ça. On va dire Le Monde. Allez.
Il y a une déontologie, quand même. Non, mais les journalistes ont une déontologie. C'est-à-dire si on les prend plusieurs fois à avoir donné une information...
Ils ont des avantages fiscaux aussi.
Enfin, je sais pas, moi je connais aucun journaliste, et pourtant j'en ai quelques-uns qui ont critiqué mes livres. J'en connais aucun qui vivent dans des appartements formidables avec une piscine et des belles voitures. Hein. La plupart crèvent la faim et ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc,
non, ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois qu'une information est publiée, même si c'est pas une fake news, il y a toujours un peu cette tendance désormais, moi, alors je suis journaliste de formation, donc, du coup, peut-être, à douter presque de la vérité de l'article en me disant qu'il va y avoir une contre-info ou. Va y avoir une remise en cause, par exemple, de cette personne sur des liens. Quelqu'un qui va écrire quelque chose et on va découvrir, comme pour cette histoire de vaccin et d'autisme, que finalement, il avait des liens. Est-ce que, finalement, ça n'interroge pas notre vision du monde permanente et notre vision de la vérité ?
Je crois qu'une des définitions du postmodernisme, qui serait notre époque, c'est le relativisme dans tout. Et en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille au Musée de la Science. Je connais quelqu'un qui travaille au Musée de la Science de Londres. Et je lui disais, en France, il y a un débat, est-ce qu'on peut faire venir dans les comités éthiques qui réfléchissent sur des questions scientifiques, des gens qui ne sont pas scientifiques, pour donner leur avis ? Et je m'attendais à ce que cette personne qui travaille dans le Musée de la Science me réponde, non, c'est pas une bonne idée, il faudrait que ça soit les scientifiques entre eux. Pas du tout. Elle m'a répondu, il est essentiel que des gens qui ne sont pas du domaine scientifique puissent quand même donner leur opinion, même si c'est une opinion contraire ou adverse, parce qu'ils font partie de la société, et que leur opinion est importante pour prendre des choix par rapport aux choses, même si elles ne sont pas rationnelles. Même si elles sont discutables, elles doivent pouvoir s'exprimer.
Oui, il y a... Enfin, encore une fois, la question pour moi, c'est celle des régimes de vérité. C'est-à-dire ce que tu dis, quand on voit une info, on a toujours... on est souvent, en tout cas, titillé. On se dit, mais ouais, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas justement une fake news déguisée ? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources ? Ou est-ce qu'on ne va pas nous expliquer dans 2 ans ou dans 6 mois que c'est une fake news ? C'est parce que, précisément... cette fake news, elle transpire, on l'attrape dans un univers particulier avec son régime de vérité, et que quand on va se transposer dans une autre situation sociale où c'est d'autres critères de vérité et de vérifiabilité qui vont se poser, eh bien effectivement, on pourra éventuellement remettre en question ça. Donc,
It occurs to me as I watch all of the things going by about the new tax bill that Trump has put up, that many of the things that are being taken away are things that are actually against the interests of the people who voted for him. That there is going that the health insurance is going to be terrible. That it's going to be a lot more expensive. That Social Security is threatened. That Medicare is threatened. These people, for the most part, live on these things that they have voted in someone who wants to get rid of. And it is also not lost on me that over the years, just bit by bit, hardly noticeable, money for education, the kinds of education that are available publicly, have gotten worse and worse in America. And so children are not given the tools to be able to look at something and question it. They are not given the tools to be able to question at all. They just are fed a bunch of facts, and they're not paid attention to on any individual level. And yes, maybe they can read, but they're not given anything worth reading. And that will create a population whose prejudices can easily be played upon and whose fears can easily be raised, so that they can do all of the things that you people have been talking about. They don't know what rationality is. They only know what they believe. And since it's a very religious country, or at least it has, you know, a huge religion that people feel that they have to subscribe to, if they're going to be in public office, I think that this has been extremely dangerous.
Il y a une jolie phrase de Hannah Arendt que j'avais notée pour pas la massacrer, qui dit quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Et avec un tel peuple, conclut-elle, vous pouvez faire ce qui vous plaît. C'est pour ça que, effectivement, la question des fake news, la question des régimes de croyance, la question des, pas que des algorithmes, mais du projet politique qui a derrière ce type de société, elle est vitale, elle est essentielle. C'est bien qu'on en parle ici, mais il faut que vraiment chacun, à son échelle, puisse la faire sienne et puisse la questionner de manière quotidienne pour essayer de sortir un petit peu de ces effets de bulle.
Moi, j'ai un petit pourcentage en préparant la table ronde. C'est 24% désormais des gens qui font confiance aux journalistes.
Seulement 24%.
75% qui ont une défiance. À partir du moment où le journalisme est un fondement de la démocratie, cela pose évidemment d'autres problèmes. Dans la même page Wikipédia, il est dit aussi qu'un groupe de chercheurs aurait démontré que les fake news n'ont pas eu d'impact sur l'élection américaine de Donald Trump. Donc relativise aussi cet impact. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, hein. J'alimente le débat.
Je ne sais pas si les fake news ont eu un impact sur l'élection de Donald Trump, mais pour moi, l'élection de Donald Trump montre quelque chose par rapport à ce que tu disais. Et cette question de désagrégation du corps social mène au fait qu'au bout d'un moment, se retrouvent élus des gens qui ne sont pas, qui sont pas réellement le choix de la population et qui ne sont pas ceux qui feront du bien à cette population. Parce que les gens sont divisés, donc ils ne vont pas voter, ou ils votent n'importe quoi. Et au final, les gens qui sont élus ne représentent plus les intérêts de la population.
Alors sur les études que tu mentionnais, effectivement, il y en a eu plusieurs en Angleterre et au Royaume-Uni. Et effectivement, il y en a eu plusieurs, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu trois à ma connaissance. Mais ces études, tendanciellement, ont conclu que, en effet, les fake news, ces études qui datent d'il y a un an et demi, n'avaient pas joué de rôle majeur dans l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que ce qui était impossible ou très difficile à quantifier scientifiquement, c'est la causalité entre « j'ai vu une fake news, donc je vote pour Donald Trump ». Il y a des effets de corrélation. Plus je vois de fake news qui m'expliquent que Hillary Clinton est machin, et plus je vais avoir tendance à, mais il n'y a pas de causalité pure entre les deux.
Il y a une causalité tout de même, qui est que c'est le fonds de commerce de Donald Trump de dire que les médias mentent. Ce qui est une question de fake news. C'est lui qui dit qu'il y a des fake news. Et comme il y a beaucoup de gens, seulement 24% en France, qui croient aux journalistes, bah tous les autres, ils auront tendance à dire OK.
Mais après, il y a effectivement, par exemple, d'autres études qui ont montré, on a essayé de mesurer en fait l'origine du trafic, d'où venaient ces fake news. Et là, les études ont montré que Facebook, à lui tout seul, est à l'origine, en gros, de plus de 30% des fake news qui sont en circulation pas que sur Facebook, hein, mais dans les médias, etc. Alors que les médias, même si ça n'a pas grand sens de dire ça, ne sont à l'origine que de, entre guillemets, 8% de ces fake news. Donc 30% pour Facebook. Facebook, c'est 2 milliards de résidents quotidiens. 8% des médias qui propagent des fake news. Il reste tout le reste, hein, le web, les blogs, Internet, etc. Et derrière, effectivement, il y a des effets paradoxaux qui font que dans les mêmes études, on a montré que des gens propager des fake news tout en sachant que c'était des fake news. C'est-à-dire, ils partageaient dans Facebook avec leurs amis des fausses nouvelles, la vidéo, là, par exemple, du vaccin. Moi, j'ai des copains qui l'ont partagé tout en étant convaincu et en sachant que c'était un type dangereux, etc. Mais la logique, encore une fois, l'architecture du système fait qu'on est incité parce que derrière, il y a des mécanismes de reconnaissance sociale. On partage ça, donc on en parle, on a du like, des commentaires, ça nous fait du bien, et ainsi de suite.
C'est le fun, en fait. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on s'amuse à relayer ces fake news, etc. Moi, j'associerais le fun au nihilisme, en fait. C'est peu importe le sens, peu importe la vérité, c'est fun. Et voilà, l'explication de tout est là.
Et n'y a-t-il pas une... Ce sera ma dernière question avant qu'on passe aux questions du public. N'y a-t-il pas une responsabilité des médias sur les 30 dernières années? À partir du moment où on vit l'histoire en direct, à partir de 89, la chute du mur de Berlin, à partir du moment où il y a la révolution roumaine, où on passe des images sans commentaire. Et puis le 11 septembre, où c'était très marquant, le 11 septembre c'est un événement en direct, comme nous n'avons pas d'informations, sur les plateaux apparaît tout un tas de types qui viennent expliquer tout un tas de choses sur rien. Est-ce que ces fake news et dans un temps médiatique qui est court, encore une fois, il y a une relation de cause à effet, est-ce que finalement c'est pas aussi l'échec des médias sur une éducation à l'information sur les 30 dernières années ?
Je pense que c'est trop facile. Les médias, ils donnent ce que les gens veulent lire. Donc, c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui cliquons. Si on ne clique pas, les médias trouveront d'autres contenus, quoi.
Mais donc, ça, c'est l'information aussi. C'est l'apprentissage de l'information.
On doit se responsabiliser aussi en tant que consommateur.
Ouais, c'est ce que je dis. Hein. Ouais, c'est l'apprentissage de l'information, c'est aussi, à partir du moment où une information arrive, avoir une distance critique.
Être capable de décortiquer, c'est d'analyser, ça. Etc. Et il se trouve que bon, j'ai 46 ans et quand j'avais 18 ans, période du lycée, j'arrêtais pas de militer pour qu'il y ait des cours ou des formations d'éducation à l'image et au potentiel propagande de l'image. C'était plus ça ma préoccupation à l'époque. On est en 2017, j'ai vu aucun mouvement réel d'État pour mettre quelque chose réellement en place là-dessus. Si, ah oui, je sais, contre les théories du complot spécifiquement, on fait passer des choses dans le monde éducatif, mais c'est pas exactement ça la question.
Non, non, il y a eu, enfin, je suis d'accord que c'est largement insuffisant et que ça pourrait être beaucoup mieux, mais il y a eu, j'ai aussi 45 ans, il y a eu dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de documentation, un vrai effort pour dire que ces problématiques étaient importantes. Et il y a aujourd'hui un lycéen, quelqu'un qui sort du lycée, il a eu des cours d'éducation à l'image, il a eu des voilà, il n'en a peut-être pas eu assez, ils n'ont peut-être pas été faits par les bonnes personnes, on peut toujours, mais enfin en tout cas, ça a bougé. Et puis il y a, moi je suis prof en IUT notamment, donc j'ai un public entre 18 et 20 ans, majoritairement, ça fait 12 ans que je suis prof, j'ai vu quand même les pratiques de ça a été vu par d'autres gens à l'échelle d'études sociologiques, mais on a vu les pratiques évoluer. Il y a des pratiques qui sont beaucoup moins candides, par exemple, beaucoup moins naïves sur l'usage que ces publics font de Facebook. Aujourd'hui, ces publics ont de Facebook un usage qui est un usage essentiellement mature, éclairé. Ils ne font pas n'importe quoi. Le problème, c'est que les jeunes, entre guillemets, les 18-20 ans, ils ne sont plus sur Facebook. Ils ont bougé sur d'autres plateformes sociales. Et Facebook, maintenant, c'est pour leurs parents et leurs grands-parents. Et ils y vont de temps en temps pour... Et sur ces autres plateformes sociales, c'est des nouveaux codes qui sont mis en place, qui ne sont pas les mêmes que Facebook, ou des codes où, par exemple, on leur dit ce que tu publies est effacé instantanément, ce qui est faux. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on change de plateforme, il faut réapprendre ces codes-là. Et c'est compliqué. Et on est sur des technologies qui vont très vite, à des échelles de temps très courtes, sur des volumes d'informations immenses. Donc, à mon avis, il ne faut pas tenir pour responsable ou coupable non plus les usagers de ces plateformes-là qui font ce qu'ils peuvent, qui sont soumis en permanence à des injonctions contradictoires, hein, consomme, clique, like, partage, prends-toi en photo, etc. Et qui, derrière, avec l'aide de la société, de certains médias, de certains profs, essayent quand même de construire une approche beaucoup plus éclairée, éveillée en tout cas de ces outils-là. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des fois ça part en sucette, mais...
There's also the echo chamber effect, which is you have a tendency to talk to the people you agree to, you agree with, and you get around you. I think that what happens with all of the people who are having their individual opinions is that we create little tribes. So you have all of the people who are indignant about this, and you have all of the people who believe that, and you have all of the people who are for Hillary, and all of the people who are for Bernie, and they don't necessarily talk to each other except by screaming, by saying, no, you're wrong, you're lying, or, you know, I say this about something, well, Hillary is a liar, which doesn't usually rationally follow. And that is, it's difficult because we are tribal. We want to be with people who we agree with, and we don't like being around people who we don't agree with, and we would like to make them agree with us. And until we can find some way of all saying, okay, the world is going to hell in a handbasket, and we need to deal with this, and we need to put aside certain things in order to deal with it. It's going to be a tough ride.
Ce qui nous rassemble est plus puissant que ce qui nous oppose, mais on est plus dans ce qui nous oppose.
Alors, on a dit quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. C'est place aux questions. Il y a une première main qui s'est levée, Madame. Oui, le micro arrive.
Merci. J'avais deux questions, en fait. L'une qui se rapproche de ce que vous disiez, Olivier Hertzscheid. Finalement, quelle est la différence entre Google et Facebook quand vous parlez de popularité et d'engagement ? Pourquoi on dit que Facebook a été très responsable, notamment dans l'élection de Trump, alors que Google et sa popularité est quand même sujet au titre putaclic, etc., notamment avec l'actualité. Pourquoi eux n'ont pas été portés responsables de telles accusations ? C'était ma première question. Et la deuxième question, c'est finalement, vu qu'il y a une défiance des médias, et je dois ajouter que je suis journaliste, donc voilà, ça modifie ma question, vu qu'il y a une défiance des médias, est-ce que les gouvernements n'auraient pas intérêt à créer finalement leurs propres médias pour diffuser une information qui serait dite vrai, mais en tout cas qui forcerait les médias à aller plus loin que reporter la parole, notamment d'un président. Et en fait, on aurait déjà la parole, on va dire, intacte du président via ce média, et les journalistes n'auraient plus qu'à la commenter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'on se rend compte que Trump, finalement, a une portée hyper puissante, et les journalistes sont obligés d'aller chercher, justement, la vraie information. Donc ils sont remis face à leur responsabilité de vérification, en fait.
Oui, alors deux choses et très rapidement, même si je partage votre constat sur la deuxième partie, moi je suis toujours méfiant quand on dit que le gouvernement devrait avoir, que les politiques devraient avoir leurs propres médias. C'est en train d'émerger en France, on le voit avec le débat autour du média créé par l'équipe en gros de campagne, mais pas que de Jean-Luc Mélenchon. On voit tout de suite que ça pose aussi des questions de rapport à la vérité.
Macron aussi, sa propre équipe de communication.
Oui, bien sûr. Voilà, il y a des espaces, encore une fois. La vérité pour le communicant de Macron dans son média n'est évidemment pas la vérité pour le média lancé par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est clair. Sur la première partie de votre question, c'est vrai qu'on a moins embêté Google que Facebook sur l'histoire des fake news, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a deux jours, les présidents de Facebook, enfin les directeurs de Facebook, de Twitter et de Google étaient convoqués devant le Congrès aux États-Unis pour répondre de ces histoires d'influence russe dans l'élection. Il se trouve qu'aucun des trois n'y est allé. Il se trouve que tous les trois ont envoyé leurs avocats en chef. Donc, et il se trouve que d'ailleurs le responsable de la commission d'audience du Congrès a dit mais où sont passés vos CEO ? Parce que c'est eux qu'on avait convoqués, ils ne sont pas là. Voilà. Donc Google a aussi contribué à propager des fake news, mais encore une fois, pour faire court, le régime de vérité n'étant pas le même, ça c'est mieux propagé et plus vite sur Facebook, et en plus 30% du trafic des fake news viennent Facebook, et il y a 2 milliards de gens qui sont exposés quotidiennement à ça, donc il y a un effet d'échelle aussi.
Merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais revenir du coup sur la défiance de la presse. Vous avez cité tout à l'heure 25% qui seraient très méfiants envers la presse. Est-ce que c'est pas dû à tort ou à raison, hein, au fait que aujourd'hui en France on a quand même 9 milliardaires qui possèdent 95% des médias et de la presse nationale.
C'est pas une théorie du complot, ça ?
Non, ça j'ai dit à tort ou à raison. Mais est-ce que c'est pas ça qui alimente justement cette théorie du complot chez pas mal de gens, qui alimente les fake news et tout ? Comment ça peut... Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation à ce niveau-là ? Et comment ça peut évoluer à l'avenir ? Mais bah justement, je trouve ça très intéressant la remarque de derrière, voilà, la formation d'une nouvelle presse ouais, d'État ou... Voilà.
En fait... Pas grand monde, on sait grand chose, hein. On verra bien, ça se passera sans doute très mal. C'est une question d'imagination. Après, la littérature est là pour nous donner des pistes, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand ça chie. Mais là, effectivement, on a une situation très très bancale, très très compliquée, où il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça va donner.
Juste pour vous répondre, c'est ce que je disais sur la défiance par rapport à l'information, il y a, par rapport au journalisme, évidemment, à partir du moment où il y a une concentration des médias, cela jette le doute sur un certain nombre d'informations et toute la complexité quand on reçoit une information. Et on le voit bien entre la différence entre la communication et l'information. Quand il y a une communication d'un gouvernement sur des vaccins ou sur des chiffres, il y a tout de suite d'autres informations pour affirmer ou infirmer. Il y a débat autour même de l'info. Donc l'info, c'est le fait même, et ce fait même-là est remis en cause. La problématique, elle est là. La concentration est juste une couche de doute supplémentaire. Sur un certain type d'infos, on est bien d'accord. Ça ne touche pas forcément le fait divers. Une dernière question, on speed.
Bonjour et merci pour cette conférence. J'avais juste une petite question au niveau justement du congrès qui s'est passé il y a quelques jours avec Twitter, Facebook et Google. Parce qu'en fait, Facebook a répondu qu'ils allaient faire en sorte d'éviter ces fake news et de les désponsoriser, en fait, de tout. Ce qu'ils ont dit, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tous les articles qui seront en désaccord avec la majorité des médias, avec des informations de la majorité des médias, seront désponsorisés et donc seront moins vus sur Facebook. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette. De ce choix, puisque est-ce que ça ne favorise pas une certaine pensée, une pensée unique, une espèce de. Médias, idées uniques, je ne sais pas très bien. Voilà.
Moi, je crois, pour faire très court, que si on veut de toute façon de la pensée critique, il ne faut pas aller sur Facebook. Il faut y aller pour plein de choses, mais pas pour avoir de la pensée critique ou distanciée. Et après, Facebook, ils réfléchissent concrètement, au-delà, à couper complètement leurs médias en deux. C'est-à-dire, d'un côté, on aurait deux fils d'information, avec d'un côté juste les publications de nos amis et de l'autre toutes les publications des marques, des pages, des artistes, etc. Et du coup, effectivement, pour eux, c'est une manière en fait de gagner sur les deux tableaux, c'est-à-dire de réaffecter des budgets publicitaires sur deux champs différents, tout en s'amendant ou en s'excusant, effectivement, en reconnaissant qu'il y a des posts sponsorisés qui peuvent apparaître sur des profils particuliers et qui relèvent de stratégies d'influence. Mais je suis convaincu que ça ne marchera pas à long terme.
Merci à nos intervenants. On est malheureusement obligé de s'arrêter. Je savais qu'il y avait plein de questions. Ils vont être tout de suite en dédicace. Merci à tous.